Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr ou en ce moment même sur le site YouTube. Au studio aujourd'hui, nous accueillons une équipe de jeunes femmes donc qui sont venues nous parler de ce matrimoine en Diwa le 17 au 19 septembre. Nous sommes en compagnie de Jeanne, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Fauve.
Bonjour.
Et Connie.
Bonjour.
Toutes les trois, donc, vous êtes ici pour nous parler de matrimoine en Diwa. Vous nous expliquerez ce que c'est et comment c'est soutenu. Pour ça, vous organisez tout au long de ce week-end qui sera bien rempli puisqu'il y a aussi la Dromoise dans le même moment. Enfin, donc, beaucoup d'événements. Et vous proposerez environ 4 événements hein, à première vue. Sur l'ensemble du Diwa, je crois.
Notre groupe Matrimoine Diwa s'est construit, se ressemblait il y a à peu près 2 ans. L'année dernière, on a déjà fait des événements pour les journées de matrimoine qui font pas genre une parallèle ou qui sont là pour compléter les journées de patrimoine, vu que patrimoine, c'est un mot qui fait un peu mal à quelques femmes. on ajoute des héritages féminins, et parce que c'est le matrimoine et le patrimoine qui forment l'héritage culturel. C'est notre approche, et on veut du coup visibiliser la contribution féminine à l'héritage commun. Et notre groupe, c'est une dizaine de femmes qui habitent Diwa. On est pluridisciplinaire. Ça veut dire, on amène tout notre savoir, notre intérêt. Et c'est surtout la culture, après la recherche des plusieurs chercheuses, et ça va être... Jeanne, plus tard, qui va parler de ça, parce qu'on a des premiers résultats qu'on va montrer maintenant. Et cette année, on montre pendant les 3 jours une grande installation qui s'appelle Faire un monument, et ça va être Place de la Comtesse, et une exposition Mountain Mother qui est déjà en vue au musée. Et après, à Luc, il y a toute une campagne d'affichage qui est conçue par le mouvement HF. Et ce mouvement HF, en fait, ça veut dire homme-femme. Hein, en fait, c'est pour l'égalité entre hommes et femmes. Cet mouvement HF, il est national partout en France. Et il y a une groupe... de la région Rhône-Alpes et en fait ou Auvergne-Rhône-Alpes même pardon et eux ils organisent cette campagne et ils organisent les journées de matrimoine depuis des années et cette campagne d'affichage vous avez déjà peut-être vu Adi c'était une campagne de l'année dernière qu'on a eu dans les grandes pages partout en ville et aussi pendant les journées contre la violence contre les femmes le 27 novembre. Voilà, et après, il y a encore des annexes et c'est Petsavé qui pourrait parler et c'est Fauve qui va parler de ça.
Je viens au nom de ma collective qui s'appelle Rose Canine où on fait du partage de connaissances autour de l'autonomie de nos corps et de nos savoirs gynécologiques. Et également avec la Cancaérie, qui est un futur café associatif féministe qui est en train de se créer à Luc en Diwa. Et c'était donc avec ces deux collectifs qu'on voulait s'insérer dans Matrimoine, qui nous paraît un projet important de défendre. Du coup, nous, on va organiser 3 événements. Le premier est le samedi 18 septembre à 14h. Du coup, j'organise une balade botanique en mixité choisie sans mec 6. pour parler des plantes de la sphère gynécologique, en partant donc du Jardin de l'Aube, je ne sais pas si je l'ai dit, voilà, 14h, grâce au merveilleux jardin que Marie, Grégory et d'autres ont mis en place et où il y a énormément de plantes déjà sur place à observer. Après, dans l'après-midi, au temple de Barnave à 17h, puis 19h30, on présente deux films. Un premier qui est vraiment un film matrimoine qui s'appelle « Regarde, elle a les yeux grands ouverts », qui est un documentaire de 77, qui montre des groupes de femmes qui s'autonomisent autour de leur accouchement, de l'avortement, de leur sexualité. Voilà, c'est un très très beau documentaire que sûrement pas mal de personnes ont vu, mais que je vous invite à venir revoir à 17h. Et à 19h30, on a un très beau cadeau de Mathilde Capone, qui est une réalisatrice québécoise, qui nous donne en exclusivité son film qui a été projeté assez peu pour l'instant, qui s'appelle « La fabrique du consentement, un regard lesbo-queer », qui est un documentaire où elle interviewe toutes sortes de personnes issues du milieu LGBT, pour réinterroger aussi la binarité, ce qui nous semblait important dans un événement qui est donc organisé par HF, même si c'est bien homme-femme, aussi de se questionner sur la non-binarité, qui est une réalité et qui, malheureusement, du coup, n'est pas assez entendue. Donc ce film-là aborde toutes ces questions à l'intérieur du milieu LGBT sur le consentement. Donc voilà, un très 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 beau film qui est à 19h30, avec une cantine de soutien à la Quincaillerie, puis une buvette. Et enfin, le dimanche, à la Quincaillerie, qui est 97 Grande Rue à Luc-en-Diois, donc notre futur café associatif LGBT féministe, où il y a énormément de chantiers à faire et où justement on va pouvoir présenter un peu là où ça en est et comment on aurait besoin d'aide. Pareil, c'est des chantiers en mixité choisie. Là, du coup, je propose un atelier d'auto-observation gynécologique qui va être réservé à 12 participantes et j'ai déjà quand même pas mal d'inscrites. Mais si vous voulez, il faut m'écrire à fauve.canine@mailo.com. Il reste 6 places, en vérité. Et pour les autres, je propose un hammam de chatte, qui est un bain de vapeur vulvaire, qui est un soin ancestral et qui est très chouette, ou un dessine ta vulve. On va essayer d'organiser 3 ateliers en même temps. Et pareil, une cantine de soutien et une buvette sur place. Voilà.
Merci. Jeanne, toi-même, donc, comme pour Connie, tu œuvres principalement à Matrimoine Andiwa.
Oui, c'est ça. Matrimoine Andiwa. Donc, on a le plaisir de réaliser un grand monument cette année sur la place de la Comtesse. On profite de la restauration du buste et de sa réinstallation pour lui ajouter des jupons et présenter le début de nos recherches. Donc, des recherches menées en sciences sociales, dans le domaine notamment historique. L'idée, c'est un petit peu de savoir d'où on part, quel est l'héritage des femmes dans le Diwa, qu'elles soient résistantes, avec un clin d'œil à Yvonne Audon et aux femmes résistantes du Vercors et du Diwa. Aussi, les travailleuses du textile. Il y avait beaucoup d'usines textiles au XIXe siècle dans le Diwa, notamment autour de la laine et du coton. Donc c'est intéressant d'avoir le regard de Marie Marquet et de Claudine Pellissier qui nous apporteront des éclairages sur la vie de ces femmes, souvent des très jeunes filles, des très jeunes femmes, notamment au couvent-usine de Rokubo, avec des parcours de vie vraiment très singuliers et très durs. Et puis aussi des éclairages sur les premières femmes élues du Diwa. Le travail de Sylvaine Laborde-Castex, qui nous présentera les premières femmes élues, notamment Alice Cartier à Saint-Dizier-en-Diwa et Jeanne Josseau à Saint-Julien-en-Diwa. Et puis, c'est aussi l'occasion de s'immerger dans l'univers de ces femmes d'un territoire rural. Elles sont souvent très effacées. En fait, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est une invisibilisation, comme l'a dit Connie. Les femmes, elles sont là, mais elles ont laissé peu de traces. Elles sont parties avec leur silence. Donc, on essaye de réveiller ces mémoires à travers des photos qui racontent un monde rural. Donc, c'est un petit peu, on remet ça dans une temporalité et dans le lieu, le territoire du Diwa. Mais c'est aussi une invitation à venir partager ces mémoires. Donc, ça sera l'occasion d'ouvrir les souvenirs, d'ouvrir les armoires, de ressortir du linge des grands-mères ou des anecdotes. Et donc, il y aura plusieurs dispositifs pour venir témoigner ou en tout cas découvrir notre démarche et avoir envie de participer. Voilà. Puisque finalement, qu'est-ce qui figure dans le panthéon des femmes d'Iwaz ? Est-ce qu'il faut avoir été résistante ou femme mère des années 50 ? Ou est-ce que chacune d'entre nous avons à participer à enrichir ce matrimoine ?
Là, vous êtes dirigée sur deux personnalités, Béatrice Dedi et ensuite Yvonne Audon. Est-ce que vous avez tenté des recherches sur d'autres personnes, d'autres femmes qui ont marqué une époque du Diwa ?
Alors, c'est effectivement un peu nos points de départ, puisqu'il y a un très beau travail musical qui a été mené autour de Béatrice Dedi. Avec la sortie d'un disque, puisque c'est une des seules femmes Trobéritz du XIIe siècle qui a laissé des chansons et une partition. Donc c'est sa particularité. Et Yvonne Audon aussi, grande résistante, bien sûr, mais aussi grande bibliothécaire. Et c'est un point de départ. Après, il y a plein de pistes. Donc, effectivement, il y a d'autres femmes qui apparaissent. Et petit à petit, on est en train d'organiser tout ça. C'est à la fois, c'est un peu paradoxal, mais à la fois, c'est très riche et foisonnant. Et en même temps, la difficulté, c'est de trouver des sources, de trouver... Elles sont particulièrement discrètes, les femmes. Elles n'ont pas forcément laissé beaucoup de traces. Alors si, des trousseaux brodés ou des recettes de cuisine. Mais voilà, alors pour répondre à votre question, oui, il y en a d'autres, des femmes qui apparaissent. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Louise Géry, qui a été sage-femme à l'hôpital et qui maintenant a donné son nom à une rue de Die. La muette de l'hôpital de Die qui a accompagné des accouchements pendant des dizaines d'années. Elle a une histoire vraiment très singulière. Et puis, il y a toutes celles qu'on ne connaît pas encore et qu'on a hâte de découvrir.
Vos sources, vous les cherchez dans quel secteur ? Est-ce que, par exemple, au musée de Die, il y a des possibilités de se documenter sur l'histoire de Die, du Diwa ?
Alors oui, bien sûr. Donc c'est vraiment un travail de chercheuse et de chercheur qui s'appuie sur des bases solides. Donc que ce soit aux archives départementales, que ce soit dans des sources historiques qui peuvent être localement à Die ou ailleurs auprès d'autres organismes. Donc là, ça se construit. Un petit peu au fur et à mesure, et c'est un travail au long cours. Donc l'idée, c'est vraiment de présenter ici l'amorce d'un travail, et puis qu'ensuite, on aura l'occasion de présenter en détail au public. Mais pour ça, il faut du temps de recherche, du temps d'analyse, d'entretien aussi. Voilà, donc ça commence à s'amorcer, et c'est ça qu'on a envie de partager, à travers aussi un état des lieux, puisqu'on est allé effectivement auprès des sources locales, que ce soit les revues locales, les fonds du musée, etc., pour recenser déjà la présence de femmes ou de thématiques où les femmes sont particulièrement présentes.
Ça regroupe grosso modo l'ère moderne, je dirais, mais depuis le Moyen-Âge, depuis Béatrice, il y a aussi d'autres personnalités peut-être à découvrir, j'imagine.
Oui, on peut commencer par les déesses de l'Antiquité. Et donc, Connie peut aussi nous parler du lien entre l'exposition actuelle et Cybèle.
Ben oui, peut-être. En fait, ça, ce n'est pas une recherche des chercheuses, mais une recherche artistique. En fait, l'année dernière, en 2020, été 2020, il y avait un couple d'artistes qui étaient en résidence avec leur enfant chez moi à The Residence. Et eux, ils ont été interpellés par la nature de Diwa, comme en fait tous les artistes en fait que je reçois. Mais ils ont fait des recherches quand même un peu aussi en amont pour voir ce qui pourrait être un peu leur focus. Et ils ont trouvé Cybèle, une déesse romaine, mais qui vient d'origine d'Orient et qui les Grecs ils ont importé, emmené. Et après, les Romains, ils ont copié, comme toujours. Et voilà, c'était les Romains qui ont introduit Cybèle au IIe siècle, à Dire. Et il y avait un véritable culte. Et Cybèle était connue pendant des différents moments de temps comme mère de montagne, mère de la nature sauvage. Aussi... bon, plutôt ici à Dire comme déesse de tous les dieux. Ce qui vient, je viens d'apprendre de Jacques Planchon qui a partagé son savoir avec nous aussi et qui a très généreusement accueilli des artistes. Je lis l'année dernière dans sa bibliothèque et maintenant au musée parce que en fait, ce qui les artistes qui sont principalement photographe, en fait, c'est ils ont cherché des traces de Cybèle dans le musée et dans le Diwa contemporain. Et c'est des photos qui sont plutôt conceptuelles de Catherine Evans, une Australienne qui habite à Berlin. Et Pietrus, lui, il a une approche plutôt documentaire. Et lui, il fait des portraits très sensibles des gens. Il a une approche très, très humaine. Et du coup, il y a deux sortes de photographies qu'on peut voir au musée. En plus, il y a des assemblages. C'est des livres qui rencontrent des pierres cassées et voilà des sortes de papiers en fait des interventions et c'est en fait les pierres cassées c'est quelque chose que Catherine elle a suivi pendant sa résidence. Elle a collectionné des pierres parce que dans toute sa pratique des installations, elle travaille beaucoup avec des pierres. Et elle a cherché de faire un portrait d'une pierre qui fait référence à Cybèle. Et en fait, elle a fait toute une série de portraits de pierres où elle a, dans l'ombre du pierre... On peut vaguement peut-être voir quelque chose, mais finalement, elle a cassé une pierre juste comme il faut et elle a sorti le profil de Cybèle qu'on peut voir du coup aussi au musée.
Chacune est membre aussi d'une association ou active dans une association. Je commencerai par Jeanne. Donc vous êtes au sein de l'association Le Paradoxe du Singe Savant, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que c'est le collectif Matrimoine est effectivement porté de manière administrative par cette association, le Paradoxe du Singe Savant. Et ensuite, au sein de Matrimoine, ce qui est intéressant, comme le disait Connie, c'est la pluridisciplinarité des unes et des autres avec cette double sensibilité à la fois de recherche et de création artistique. Et ce qui est intéressant, par exemple, autour de la figure de Béatrice, comtesse de Die, mais aussi de la belle Justine, par exemple, c'est que elle continue à être des sources d'inspiration pour des artistes à travers le temps. Et donc, du coup, on voit apparaître des femmes un petit peu en cascade. Et c'est ça qui est riche, c'est qu'elles restent mystérieuses parce que c'est très difficile de recomposer leur biographie, leur parcours. Et de ce mystère, eh bien, on peut en faire toutes les interprétations possibles. Les femmes qui sont arrivées jusqu'à nous, c'est qu'on a effectivement des traces de femmes de l'Antiquité. Donc il y a Cybèle, mais aussi Andarta ou Isis. Il y a des femmes du Moyen-Âge dont on entend encore parler. Et puis après, c'est le grand vide jusqu'au XXe siècle. Donc il y a vraiment eu une manière d'effacer les femmes de la sphère publique qui est vraiment très très forte. Et finalement, aujourd'hui, de façon paradoxale, il y a plus de rues à Die qui portent des noms de femmes du 20e siècle, enfin des femmes de l'après-guerre, que des noms d'hommes. Voilà.
Est-ce que la magie aussi de ces personnages, hormis Yvonne Audon, il y a ce mystère du fait de très peu de documents qui émanent de ces personnes ou de l'histoire ?
Par rapport à Yvonne Audon, en fait, c'est aussi qu'elle était juste... en fait, elle ne voulait pas avoir la lumière sur elle, en fait. Et c'est assez souvent quand même chez les femmes qui sont plutôt discrets. Ils ne sont pas les grosses courries. Et du coup, Yvonne Audon, elle a fait un très grand travail dans la résistance, dans la première résistance. En France, elle était bibliothécaire à Paris. Elle a cofondé le Musée de l'Homme. Et en fait, là, elle a eu dans le musée, c'était sa bibliothèque. Et elle n'a pas quitté la bibliothèque jusqu'au moment qu'elle était arrêtée. Et vu qu'elle, elle a fait des études aux États-Unis, dans le domaine de la bibliothèque, pour devenir bibliothécaire, elle a eu des connexions. Avec les États-Unis et du coup avec l'ambassade à Paris. Et elle a trafiqué des informations. C'était vraiment une personne importante avec son compagnon qui était un peu plus connu. Moi, j'ai oublié son nom, pardon. Des fois, ça peut être aussi à l'envers, voilà. Et du coup, elle n'a pas beaucoup parlé sur ce qu'elle a fait et ça c'était une femme très discrète et c'est on trouve ça dommage parce que c'était des grandes choses très humanistes qu'elle a fait. Elle a aussi emmené le premier bibliobus dans Diwa. Elle était vraiment une humaniste dans tous les sens. Et de rendre hommage à elle, c'est un grand plaisir.
On va venir aussi à Fauve avec Rose Canine. Canine, c'est pourquoi
ça. La canine était plus incisive. Et ensuite, ça vient d'une plante qui s'appelle Rosa Canina en latin, qui est le rosier des chiens, qu'on avait déjà préalablement appelé le rosier des chiennes, pour faire un peu de provoque. Et du coup, quand il a fallu se renommer, parce qu'on s'appelait autrefois la vulva, qui est extrêmement genrée, Rose Canine nous apparaissait comme une évidence. Et juste pour rebondir un peu sur le travail de mes collègues au niveau du matrimoine, on travaille énormément, on fait énormément de recherches, toutes les trois, parce qu'on est trois. J'ai un travail en cours depuis presque un an qui sera bientôt... Donc tous nos écrits sont téléchargeables gratuitement sur Internet. Donc on a un site Rose Canine, c'est écrit Rosa et Canine. Et je travaille sur une histoire féministe de la botanique, justement pour retracer autant l'exclusion des femmes de la science, qui était considérée comme signe d'intelligence masculine et que les femmes n'y pouvaient rien comprendre. On a une vague mode au XVIIIe siècle de la botanique de dames, qui est une espèce de jardinage amoureux libertin qui est pas particulièrement, qui met pas en valeur en tout cas les connaissances de ces femmes botanistes qui, pour autant, se sont révélées certaines. Donc voilà, j'essaie de retracer le portrait de certaines femmes botanistes. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est comme, du coup, cette science a été faite par les hommes, et ce, depuis l'Antiquité, comment on a donné un genre aux plantes, avec des plantes masculines, lorsqu'elles sont ligneuses, dures, résistantes, et que toutes les plantes qu'on nomme au féminin sont, au contraire, fragiles, dociles, faciles à travailler. Et il en reste aujourd'hui que tous nos arbres sont masculins, à part l'aubépine, et aucun arbre n'est féminin. Voilà, c'était juste essayer de mettre un petit peu un regard sur aussi dans cette histoire des sciences qui a été entièrement amputée et très genrée, et comment il y a une fabrique du féminin qui arrive depuis l'Antiquité, et ce, à travers les végétaux qui sont finalement notre quotidien. Voilà.
Tu introduisais tout à l'heure dans les présentations le local de la Quincaillerie à Lucandiwa. C'est un endroit pour qui ?
Alors, c'est un futur café associatif qui a pour objectif, en tout cas, d'ouvrir aux questions LGBT et féministes. Évidemment, c'est absolument pas un lieu exclusif. On essaye juste de se dire qu'on a prétention à se dire que ce sera un endroit où on pourra pratiquer des activités en mixité choisie, où on pourra ouvrir du débat et où en tout cas on tient à ce qu'il y ait un respect et une bienveillance de toutes les personnes qui seront dans cet endroit. Pour l'instant, donc on est déjà sur une grosse période de chantier qui nous dépasse un peu. On espère ouvrir dans un an officiellement et l'idée est que ce soit un lieu d'éducation populaire, que chacun s'en empare pour proposer des projets qui ouvrent sur toutes ces questions et qui permettent de re-réfléchir un petit peu non seulement les comportements qu'on peut avoir au niveau du genre, qu'au niveau de tout ce que le monde est aujourd'hui et propose, qui est extrêmement liberticide, et de repositionner le partage et la solidarité au sein d'un lieu.
Est-ce que vous vous êtes renseigné aussi sur d'autres pays où se pratique l'absence de genre pour l'état civil ?
C'est la seule chose que je peux ajouter, ça, c'est en Allemagne, en allemand, en fait, on a un nom pour homme, mais comme les hommes, humains. Mm. Et c'est Mensch, et c'est pas man. So, du coup, au moins, on a ça. Yes, voilà.
Il y a la forme neutre, je ne sais pas si c'est en allemand, mais en anglais, il y a le « the » qui finalement n'est pas le ou la.
Je sais pas en allemand. Oui. Non, nous, on n'a pas l'autre. En fait, on a aussi un neutre, mais ce n'est pas pour ce nom-là. Mais c'est un nom qui dit « homme », mais pour en vivant. Et pas
« der » ou « die »?«
Der Mensch ».«
Der Mensch ».
Oui, c'est quand même... Okay. Der Mensch, mais ça peut être les deux sexes. Voilà.
Je rajoute deux, trois petites choses, mais c'est donc cette exposition dans les jupons de la comtesse, c'est vraiment pour nous un point d'étape essentiel. On va quitter un petit peu l'état des lieux, donc savoir de quoi on parle. Pourquoi, sur quel territoire, etc., en sachant que c'est infini. Hein, donc, effectivement, on pourrait encore en ajouter. Et pour l'instant, c'est pour ça qu'on reste aussi dans le champ du matrimoine, c'est qu'il y a déjà tellement de choses à faire. Mais on est bien d'accord que l'objectif derrière, c'est une continuité, c'est de plus faire la distinction entre patrimoine et matrimoine. Mais pour l'instant, on parle uniquement d'agence matrimoniale, alors que le patrimoine, ça fait référence à plein de choses, hein. Aux X appartements qu'on peut posséder. C'est très clairement le vocabulaire, il parle de lui-même. Et donc, après cette petite diversion, pour dire que ce monument, il a vraiment pour objectif de donner envie de venir participer, de donner envie de témoigner aussi de femmes qui ont de l'importance, qui ont eu de l'importance pour les habitants du Diwa. Quel est l'héritage féminin qu'on a reçu du Diwa ? Ça peut être une tante, une grand-mère, une personnalité, une personnalité connue, une personnalité moins connue et reconnue. Et donc cet été, on a amorcé cette démarche-là avec une armoire aux mémoires qui a été placée devant la boutique Chocolala, avec l'idée de déposer des noms, de commencer à nous orienter, à témoigner de personnes dont on se sent héritière et héritier. Parce que, évidemment, cette démarche, elle est aussi ouverte à tous les hommes qui nous entourent. Et puis, donc, pendant les journées du matrimoine, il y aura une petite cabine à son, un sonomaton qui permettra d'enregistrer aussi les témoignages de ceux qui le souhaitent. Et puis, toute l'équipe sera aussi là pour échanger, discuter, prendre contact. dans l'idée donc d'une collecte participative avec le plus d'habitants et d'habitantes possible qu'ils le souhaitent. Ce qu'on peut dire, peut-être juste pour ajouter, c'est qu'on est vraiment dans l'échange et dans la volonté d'une culture populaire au sens le plus riche du terme. Et je crois bien qu'on est vraiment dans cet esprit-là avec l'idée de partage et de connaissances autour des plantes et des pratiques gynécologiques qui peuvent s'appliquer voilà, dans la vie de tous les jours. Mais aussi au musée, c'est très intéressant, le regard d'artistes qui viennent s'immiscer dans les collections, ça amène aussi un autre regard sur les collections du musée. Et puis après ça, toujours dans ce monument, c'est vraiment aussi porter un regard sur une culture rurale, sur une culture rurale et pas que Adi, puisque notre objet d'étude, il est vaste, c'est 50% de l'humanité, mais c'est aussi un territoire de 50 communes, sur sur le territoire de la communauté de communes du Diwa. Donc c'est en ça que on a envie que ce soit riche, ouvert à tous et vraiment dans le partage.
Il existe d'autres associations pour justement contre le genre ou alors qui sont féministes sur le Diwa et avec qui vous avez des contacts. Et est-ce que vous ne seriez pas peut-être amené à un moment à fédérer vos données, vos documents de manière à fédérer un mouvement plus conséquent et peut-être encore plus visible sur le Diwa?
Oui, en fait, c'est en train de se construire. En fait, les liens, ils sont un peu tissés depuis un moment, mais justement en novembre, le 27 novembre, si je me souviens bien, le journée contre la violence faite aux femmes, c'était Coraline de l'ESCCD qui a rejoint toutes les organisations féministes, à plusieurs niveaux. Et du coup, il y avait une rencontre, et c'est merci encore Coraline parce que c'était très chouette, et du coup je crois que ça va se faire de plus en plus. On est en contact en tout cas.
Pourquoi vous maintenir dans un collectif plutôt qu'en association?
Le collectif, c'est l'idée aussi d'un mode de travail très ouvert. On vient d'horizons différents. Les unes font de la recherche de manière indépendante ou de façon indépendante plutôt. D'autres sont artistes. Ça permet de façon peut-être plus souple de créer des liens et puis de pouvoir inviter, partager avec d'autres personnes peut-être plus librement.
Et Kate, est-ce qu'elle fait partie de l'organisation? Ouais. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle sera présente? À quel moment?
Oui, en fait, Kate Filcher, elle n'est pas ici parce qu'elle travaille à fond avec Lynn Pock, les deux artistes qui sont en train de fabriquer le monument. Des jupons de la comtesse, comme Jeanne disait. C'est eux qui proposent cet monument et qui vont être là pour partager et pour expliquer leur démarche artistique aussi. Et voilà.
Pour cette commémoration qui va avoir lieu, place de la comtesse, il y a une plaque actuellement qui est visible et qui rappelle quoi ?
De qui nous souvenons-nous? Donc c'est en fait le monument tel qu'il a été conçu, notamment par Kate Fetcher, avec la participation de Lynn Pook et puis de l'ensemble du groupe. C'est un petit peu une pièce théâtrale, puisque la comtesse va revenir au centre de son square en deux actes. Le premier acte, donc, il a été initié cet été. Kate a profité de l'absence du buste pour interroger les passants en posant cette question, donc gravée sur une plaque, de qui nous souvenons-nous ? Voilà. Puisqu'effectivement, la présence des statues dans l'espace public pose question. Il faut visiblement être célèbre, reconnu, avoir été un homme politique ou un grand écrivain ou un général fameux pour figurer dans l'espace public. Voilà. Donc là, c'est encore un vaste débat et on pourrait y consacrer une émission entière. Les femmes qui sont apparues sous forme de statues dans l'espace public, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Voilà. Donc la comtesse, elle a son buste qui a été inauguré en grande pompe en 1888. Par le mouvement des Félibriges qui était donc amoureux du parler provençal et de cette culture troubadour du XIIe siècle. Donc, à ce titre-là, Béatrice, comtesse de Die, pouvait figurer dans l'espace public. Et donc, profitant de son absence, la question a été posée. Et puis, l'installation était complétée donc par cette armoire à mémoire installée devant la boutique Chocolat Lala, où finalement, on pouvait répondre à cette question et dire quelle femme avait de l'importance et pour telle ou telle personne. Et questionner, enfin donner une réponse à cette question. Et donc, ce qui est aussi intéressant, une des chercheuses du groupe, Elodie Kong, travaille sur la réalisation de ce buste qui a été réalisé par une femme, Jeanne Royanaise. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que le buste est signé de Jeanne Royanaise, mais la petite plaque sous le buste, c'est marqué Madame Hugues. Voilà, donc comment une femme perd son prénom et son nom de naissance pour ne garder que celui de son mari. Donc c'est une intrigue dans une intrigue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est on a vraiment ces femmes en cascade. Derrière la comtesse de Béatrice qui est partie en laissant finalement peu d'informations sur elle, il y a aussi Jeanne Royanaise, donc on espère qu'on en saura plus grâce aux recherches d'Élodie, qui est donc sculptrice au XIXe siècle, dans un contexte bien particulier où les femmes commencent tout juste à avoir le droit d'être femmes artistes et de suivre des écoles aux Beaux-Arts. Avant, c'était complètement réservé aux hommes. Donc à chaque fois qu'on aborde un sujet, on est face à cet effacement des femmes effacées par le patriarcat, s'effaçant elles-mêmes parce qu'elles-mêmes pétries de cette culture-là. Donc, c'est juste le début de toutes ces recherches et de ces questionnements. Et le monument, de la même manière que Kate a posé cette question de qui nous souvenons-nous, le monument est aussi l'occasion de poser toutes les questions que notre groupe se pose en termes de recherche, en termes de constat. Voilà, c'est quand même tellement marquant que parfois les bras nous en tombent. Oui, les femmes, elles sont vraiment très, très effacées. Donc, c'est intéressant du coup d'aller aux sources et d'en savoir plus, même si tous les chercheurs le disent, c'est souvent que des bribes. Et elles sont malheureusement parties avec leur silence. Mais en tout cas, c'est important de le dire.
Les peu de textes qu'on a de Béatrice de Die, vous semblez dire qu'elle en a laissé très peu, mais est-ce que c'est plutôt l'Église aussi qui a fait le ménage? Et à savoir, je me pose la question, si les archives du Vatican ne conservent pas de vieux textes aussi, qu'ils ont pu glaner ça et là sur des territoires?
Alors, Kate en parlerait mieux que moi, mais c'est des sources anciennes, donc il y a pu aussi avoir 1000 événements qui font que les informations se sont dispersées. Béatrice Dedi, elle a laissé que 5 chansons, dont une avec partition. Et après ça, la vie des troubadours, la vida, était compilée dans des ouvrages. Et là encore, là-dedans, on a très peu d'informations. Et en fait, les informations qu'on a, ce sont des informations qui la situent par rapport aux hommes de son entourage. Voilà. Et non pas elle en tant que telle et en tant qu'artiste. Et évidemment que l'influence religieuse complètement maîtrisée par les hommes y est pour quelque chose. Et on le retrouve ensuite à des époques différentes, à travers des manifestations différentes, mais finalement un petit peu la même chose. Et pour faire par exemple, pour les femmes résistantes, à bravoure égale, à prise de risque égale, les femmes résistantes sont bien moins reconnues que les hommes résistants. Et c'est une réalité. Et alors, il y a leur personnalité qui était de dire: oui, mais j'ai pas fait grand chose en fait. Oui, j'ai nourri des résistants, où je suis allée apporter des papiers importants, mais c'était pas grand chose, parce que dans l'imaginaire collectif, le résistant, il est là, arme au poing, face à l'ennemi. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Elles ont été extrêmement courageuses, et après guerre, eh bien voilà. On a retenu les hommes et pas assez les femmes.
Je vous remercie en tout cas, Jeanne, Fauve et Connie, d'être venues nous parler des journées du matrimoine 2021 qui se dérouleront donc du 17 au 19 septembre. Pour les renseignements, vous pouvez vous documenter sur matrimoine-en-diwa.fr. Là, vous aurez certainement les informations, les rendez-vous établis. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.
Au revoir. Au revoir, merci.
Cor. A. Po. Go. Vox. Ritmo. Ste. Sum. No. Vox. Rit no j ex cor vox mo ex no vox ex 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 mi vox ex sum no vox mi ex sum sum mo ex o vo eco ex cor eco vo eco po vos co po 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 vo i no no vo i co co no no vo i so cor po po i no no cor i ec ec o vo po vo i ec ec o ec o no no i o o o no tum tum vo ec cor ec tum i no i o o tum 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 no i tum ec cor tum o vo o ec vo co co i ec tum i ec tum o vo no i o o cor vo o vo o no i co ec vo o tum tum o ec i o o i o no no vo o vo vo i no no tum ec ra ec tum vo a vo i ec o vo a ec vo a ec vo vo ec tum 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 vo ec ec ri tu er ti tum ec tu er tu vo vo tum tum i vo ne cor u Cugora Porasso Morso Itostenes Itostenes tu mi tu mo 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 tu mo
Nenescu, Jacquard, Litove, Vocals, Huerti, 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 no,